Ah,
Commencer, c'est bien. Alors, on avait terminé avec les Sibylles qui étaient peintes à fresque sur la chapelle Sixtine, Sibylle chrétienne. Alors, on va passer dans le paragraphe 2 qui s'appelle la littérature post-apostolique. On aurait pu dire sub aussi, mais enfin, post-apostolique. Alors, par rapport aux autres aux écrits qu'on a vus précédemment, ce sont des écrits qui ne se sont jamais voulus canoniques, donc qui ne sont jamais cachés sous le nom d'un apôtre ou voilà, ou qui n'ont jamais revêtu la forme des écrits canoniques, style Évangile, Apocalypse et tout ça. Mais qui reflète la pensée des premières générations chrétiennes. Et on peut dire d'eux ce que saint Irénée, donc qui vivait à la fin du IIe siècle, disait de l'un d'entre eux, saint Clément de Rome. Il avait encore la voix des apôtres dans les oreilles, dans ses oreilles, et leurs exemples devant les yeux. Vous voyez, il avait encore la voix des apôtres dans les oreilles et leurs exemples devant les yeux. La lettre de Clément de Rome est datée d'environ 96. Vous voyez, elle est à peu près contemporaine de la rédaction de l'Apocalypse, peut-être de peu postérieure. Alors, qui sont-ils? Ces auteurs, ben, pour la plupart encore, ce sont des évêques. Certains sont romains, comme par exemple Clément, Clemens, c'est vraiment un nom romain. D'autres sont syriens, la Syrie, c'est la première grosse région chrétienne. Hein. Quand il y a eu les troubles en Palestine, en Judée, donc les chrétiens se sont mis à l'ombre, sont partis, et ils sont installés en Syrie, qui est la grande province voisine. Et vous savez, comme dit les Actes des Apôtres, c'est en Syrie que pour la première fois ils ont été appelés chrétiens. C'est là aussi que Pierre avait sa chair, hein, puisque ce qu'on fête le 21 février, c'est pas la chair de Rome, mais c'est la chair d'Antioche. La chair de Rome, c'est c'est le 18 janvier. Alors évidemment, elle a disparu du calendrier nouveau. Alors donc, vous voyez, certains sont syriens comme Ignace d'Antioche, ou des Asiates, donc autrement dit d'Asie mineure, comme Papias, dont on a quelques fragments, ou Polycarpe, qui était l'évêque de Smyrne, disciple de saint Jean et maître de saint Irénée.
Smyrne à l'époque, donc ça faisait partie de quelle
Smyrne,
géographie?
C'est la capitale d'une des provinces d'Asie mineure. Alors je les connais plus toutes par cœur.
Donc,
vous savez, il y a l'Asie, la Pamphylie, la Phrygie, etc. Oui. Alors donc c'était un grand port d'une ville d'Asie mineure. Ou alors certains sont peut-être égyptiens. On pense par exemple que le pseudo Barnabé était un évêque égyptien. Alors qu'est-ce qu'ils nous ont laissé? Ils nous ont laissé des lettres et puis aussi d'autres textes. Alors les lettres, surtout, c'est ce qu'on a en plus grand nombre et qui sont souvent du plus grand intérêt. Alors, le petit A, donc grand A les lettres, petit A, saint Clément de Rome. Alors tout ça, toutes les lettres dont je vous parle, ce sont des lettres authentiques. Des lettres qui ne sont pas interpolées, pas inventées, etc. Ce sont vraiment des textes authentiques de l'époque. On peut dire qu'il y a saint Clément de Rome qui nous en livre deux, dont une n'est pas de lui, on est certain. La deuxième, c'est une sorte d'homélie d'environ 40 ans ou 50 ans plus tard. Mais la première est bien authentique. Il y a les sept lettres d'Ignace d'Antioche. Il y a des lettres de Polycarpe de Smyrne. Voilà. Alors, commençons par celui, par le premier. C'est Saint Clément de Rome. Alors, la lettre en elle-même, alors je crois qu'elle est reproduite dans le livre de Salamito, là. Oui, voilà. Donc, page 38. Ah, mais ils mettent déjà le chauffage, hein, c'est le chauffage. C'est chaleur, oui. C'est peut-être l'aération. Oui, alors c'est le martyr de Polycarpe de Smyrne, parce que c'est dans les flammes. Alors, Saint Clément de Rome, voilà, le préambule, c'est l'Église de Dieu qui se trouve à Rome, à l'Église de Dieu qui se trouve à Corinthe. Donc on n'a pas le nom de l'auteur, vous voyez, c'est anonyme. Mais c'est attribué depuis toujours, et dans notamment le canon de Muratori, c'est attribué à Clément. Clément qui serait le troisième successeur de Pierre, selon saint Irénée, selon la liste que nous a laissée saint Irénée. C'est quand saint Irénée combat les gnostiques, qui prennent dans les Écritures ce qui les arrange, et puis qui arrangent leur Bible autour de leurs idées, eh bien, il leur dit, mais de quel droit faites-vous ça? Nous, quand on vous enseigne la doctrine, on le fait par obéissance au chef de notre communauté, qui tient son autorité de celui qu'il a consacré, qui tient, etc. Et nous pouvons lui donner la liste jusqu'à l'époque du Seigneur. Donc, vous êtes comme ça hors sol, et nous, on s'enracine jusque dans la tradition du Seigneur. Voilà. Et à ce moment-là, Irénée dit, nous pourrions vous donner la liste de nos églises. Malheureusement, il ne la donne pas. Et alors, il ne la donne que pour celle de l'église de Rome. Et il donne les 12 premiers successeurs de Pierre. Donc, l'un, Clé, Clément, Sixte, Corneille... Cyprien, non, parce que Cyprien, c'est Cyprien de Carthage, mais en particulier l'inclé Clément, vous voyez. Donc c'est le troisième successeur de Pierre dans la liste donnée par Irénée, et on pense qu'il a exercé son ministère, régné, ça serait beaucoup dire, à la fin du premier siècle sous la persécution de Domitien. Ça serait entre 90-92, donc en plein dans la persécution de Domitien, là, à l'époque où Jean est exilé à Patmos, et jusqu'à 101. Et les troubles et persécutions, parce que si l'Église de Dieu qui se trouve à Rome écrit à l'Église de Dieu qui se trouve à Corinthe, c'est pas pour le plaisir de donner des nouvelles comme ça, mais c'est parce qu'il y a des troubles dans l'Église de Corinthe. Et les troubles et les persécutions dont la lettre fait mention, donc dans la communauté de Rome, suggèrent la date de 96 ou 97 pour sa composition. Je pense qu'elle a été composée dans cette époque-là, juste après la persécution de Domitien, 96. Oui. Alors Eusèbe de Césarée, c'est le grand historien. À l'époque de Constantin, le grand historien de tout ce qui s'est passé avant dans l'Église. C'est une de nos sources les plus abondantes. Alors, Eusèbe la présente ainsi, hein, je cite, c'est dans son Histoire ecclésiastique 3:16, une lettre de Clément, reconnue comme authentique, grande et admirable, nous a été transmise. Elle fut écrite par lui de la part de l'Église de Rome à l'Église de Corinthe. Nous savons que depuis longtemps, et encore de nos jours, celle-ci est lue publiquement au cours de la réunion des fidèles. Donc, ce qui veut dire que la lettre de saint Clément, il y a eu des doutes au départ, on la pensait, vous voyez, inspirée comme une lettre de Paul ou une lettre de Jacques ou de Jean, vous voyez. Et on la lisait dans la liturgie. Et puis on a fini par se dire, bah non, en fait, finalement, elle n'est pas inspirée, mais elle est, c'est pas pour autant qu'elle est sans intérêt.
Qu'est-ce qui a permis d'affirmer ça ?
Oh, bah c'était certainement l'ancienneté. L'ancienneté, puis le fait qu'on se retrouve un petit peu dans le petit milieu paulinien. Là, Paul écrivait aux Corinthiens, il a eu à souffrir des Corinthiens, et là, Clément est obligé d'intervenir encore à cause des Corinthiens. Et bon, bah, finalement, ça faisait un peu par attraction. On se dit, voilà, on a la suite de l'histoire. Hein. Et après, on s'est dit, en fait, non, parce que la lettre de Clément, la moitié de la lettre de Clément, ce sont des citations de l'Écriture sainte. Des citations, pas seulement de l'Écriture sainte de l'Ancien Testament, parce que ça, il y en a plein dans saint Paul, etc. Mais déjà des citations des lettres de saint Paul, etc. Donc on se dit, c'est bien la littérature post-apostolique. C'est-à-dire qu'il s'appuie déjà sur ce que Paul a dit. Il n'est pas simplement... parce que sinon, dans les lettres authentiques inspirées du Nouveau Testament, vous avez de temps en temps... Bon, vous avez Pierre qui dit, oui, il y a des choses compliquées chez saint Paul. Il le dit une fois. Mais voilà. Et en fait, ils se renvoient pas les uns aux autres, les écrits du canon du Nouveau Testament, très rarement. Tandis que là, on a véritablement un auteur qui sans arrêt se rapporte aux écrits déjà néo-testamentaires qui lui sont connus et qui considèrent comme des autorités, vous voyez, pas simplement comme des compagnons d'apostolat, comme quand Paul parle de Luc, Barnabé, etc., mais comme des gens de qui on a reçu. Et du coup, c'est comme ça qu'on a fini par se dire, même si c'est très ancien, même si c'est dans un climat qui rappelle très bien le climat paulinien, avec quand même 50 ans d'écart, à peu près, eh bien, c'est plus apostolique, c'est post-apostolique. Alors, on attribue un caractère presque canonique à cette lettre de Clément. Quant au martyr de Saint-Clément, alors, qui a visité la basilique Saint-Clément à Rome ? Ah, bah parce que tout le monde, hein. Alors, donc, vous voyez, il y a la partie supérieure, médiévale, avec la belle mosaïque. Puis après, on descend. Alors, quand on est tout en bas, on a un mitréum, on a des choses anciennes. Puis au milieu, on a à peu près une basilique d'époque carolingienne, avec des fresques. Alors des fresques qui font référence au martyr de saint Clément. Alors là, c'est quand même une tradition tardive du 4e, 6e siècle. Vous savez, on lui met une encre et puis il se retrouve au fond de la mer Noire, mais en fait, il remonte. Enfin, il y a toutes sortes de miracles étranges. Et bon, voilà, alors ça, c'est... Le martyr de saint Clément, disons, c'est une histoire qui est racontée. De saint Clément, à vrai dire, on ne sait pas grand-chose d'autre qu'il est l'auteur de cette lettre.
Et vous savez, vous vous souvenez que nous, on l'avait visité avec un séminariste très brillant,
oui,
qui s'appelait l'abbaye Bora.
Ah oui, c'est
vrai. Vous aviez des séminaristes à Rome.
Ah mais oui, c'est vrai. Oui,
c'était
oui.
Votre deuxième année de séminaire, à peu près. Ah ben, et le père Battu, qui était à l'époque oui, oui. prêtre, vous avez mis dans vos rêves.
Oui, mais voilà,
si
c'est ça.
Vous avez pensé que 30 ans après, en histoire encore...
Ah ben oui. Mais c'est quand même... Oui, c'est ça quand même. Voilà, c'était ça. Oui, c'était dans les années 85-87. Oui, oui ça, parce que moi, j'étais à Rome. Ans, oui. Ah, oui, c'était à la Pentecôte, vous y étiez là.
86, je crois, oui.
Eh bien, ça fait pas mal de temps. Hein.
1886, oui.
30 ans. Alors, je disais dans la nef que l'abbé Hervé Benoît, qui était également à l'époque séminariste au même endroit, disait que maintenant, les gens disent depuis 30 ans, parce qu'en fait, ils n'ont plus de mémoire. Mais là, en tout cas, ça fait 30 ans qu'on se connaît. Et que vous me soignez. Enfin, bon.
Vous êtes en pleine forme, hein.
Voilà. Malgré tout ce que je vous fais, vous êtes en pleine forme.
Bah oui, ce sont des saignées, des choses comme ça. C'est de la médecine traditionnelle.
Des ventouses.
Des ventouses. Des ventouses et les sangsues.
Oui, c'est ça. Alors. Donc voilà l'histoire de saint Clément. Alors, donc saint Clément, si vous ne l'avez pas visité, visitez-le, même quand je serai évêque, je vous y conduirai. Enfin, quand j'aurais été choisi comme évêque de Rome, j'aurais des visites particulières. Voilà, c'est ça. Alors, donc, je reviens à notre lettre. Vous devez avoir les extraits, là, je vous ai donné. Tout le monde doit avoir son extrait de Saint-Clément. Alors, il s'agit, comme on le voit dès le départ, d'une intervention de l'Église de Rome dans la communauté de Corinthe, où les presbytres avaient été déposés par des diacres contestataires. Alors, vous vous souvenez peut-être que à cette époque, il y avait deux types de chrétiens. Il y avait les chrétiens issus du judaïsme et les chrétiens issus du paganisme. Souvent d'ailleurs dans les fresques, notamment celle de Saint-Clément, on voit des moutons qui sortent d'une ville et puis des moutons qui sortent d'une autre ville et puis qui se retournent autour du mouton, enfin de l'agneau pascal. Et donc ça signifie l'Église qui vient des païens et l'Église qui vient des juifs. Donc les judéo-chrétiens et les pagano-chrétiens. Alors les pagano-chrétiens, ils avaient leur une structure globalement qui est celle de l'épiscope et des diacres. Voilà. Et donc un chef avec des diacres pour l'assister, parce que les communautés sont petites, donc en fait l'évêque sert de prêtre. Voilà. Et puis du côté des judéo-chrétiens, on a plutôt une structure héritée de la synagogue avec un conseil d'anciens, donc de presbyteroi en grec, hein, de vieux, de plus vieux, d'anciens, et donc plutôt des communautés qui sont dirigées par un conseil, vous voyez. Et quand dans la même ville, vous avez des chrétiens qui viennent du paganisme et d'autres qui viennent du judaïsme, vous avez un peu les deux structures qui cohabitent pendant un temps, puis elles finissent quand même par se rencontrer et par se fondre l'une dans l'autre. Et là, vous voyez, on a un cas typique où des diacres, qui normalement se retrouvent en dessous des presbytres, sur le plan de l'ordre, mais en même temps qui sont fiers d'être grecs, etc., se heurtent donc à des presbytres qui, eux, sont d'origine probablement juive, alors qu'ils veulent certainement, qu'ils doivent encore un peu judaïser, conserver des traditions juives, les autres non, d'autant plus que Corinthe, c'est une ville extrêmement cosmopolite, c'était un port avec des gens qui venaient de partout. Et donc qui était un peu remuant, etc. Saint Paul ne cesse de se plaindre des Corinthiens, en fait. Donc il y a eu des conflits. Vous voyez, des conflits derrière, on sent le conflit entre judéo-chrétiens et pagano-chrétiens. Et saint Irénée nous donne nous commente cette histoire. Il dit, sous Clément, un conflit important étant apparu parmi les frères de Corinthe, l'Église de Rome envoya aux Corinthiens une lettre très importante pour qu'ils se réconcilient dans la paix, qu'ils renouvellent leur foi et annoncent la tradition qu'ils avaient reçue des apôtres depuis peu de temps. C'est dans Adversus Hereses, donc son gros livre contre les hérésies, 3:3:3. Donc livre 3, chapitre 3, paragraphe 3. Et cette lettre de Saint Clément, elle a pour but la réconciliation afin de reprendre l'œuvre d'évangélisation, annonce de la foi par la tradition reçue des apôtres, et en particulier de la tradition reçue de Saint Paul. Donc Saint Paul qui a évangélisé Corinthe.
Ça a quand même pas dû être facile, parce que quand j'ai lu l'épître de Barnabé, ceux qui s'opposent à Barnabé, ils n'ont pas tort non plus.
Non, et là, certaines...
les deux, quoi. Oui, oui. C'est pas facile de réconcilier.
Oui, comme dans les Actes des Apôtres, on voit bien qu'entre les Grecs et les Juifs, les chrétiens issus des deux communautés, il y a des arguments valables dans les deux sens, puisque même Saint-Pierre se laisse à un moment... convaincre par les judéo-chrétiens. Enfin, en tout cas, notre lettre, elle comporte 65 chapitres. Alors, ce ne sont pas des chapitres très grands. Hein. Vous savez, les chapitres dans la littérature antique, c'est souvent une page, hein, pas plus.